Chapitre 8. L'expérience du désert. Regard en arrière. Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez, et que vous multipliiez, et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères, et que vous le possédiez. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Versets 1 et 2. Il est bienfaisant de jeter un regard en arrière sur toute notre course terrestre. Nous pouvons y voir la main fidèle de notre Dieu qui nous a conduits et guidés, ses voies d'amour et de sagesse à notre égard, et ses délivrances merveilleuses dans nos moments de détresse et de difficulté. Que de fois, lorsque nous ne savions plus que devenir, n'est-il pas venu à notre secours pour nous frayer notre chemin, calmer nos craintes et remplir nos cœurs de chants de louanges et d'actions de grâce. Mais il ne faut pas confondre cette précieuse vue rétrospective avec la triste habitude de regarder en arrière à nos voies, à nos progrès, à nos services, même si nous admettons, d'une manière générale, que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons pu accomplir quelque chose pour lui. Tout cela ne conduit qu'à entretenir la satisfaction de soi-même. S'occuper de soi, d'une manière ou d'une autre, est une chose des plus pernicieuses. Tout ce qui étant à mettre notre moi en avant doit être jugé et rejeté fermement, car la faiblesse et la stérilité en sont la conséquence. Regarder en arrière à ce que nous avons fait ou obtenu par nos efforts est une occupation misérable. Ce n'était certes pas à cela que Moïse exhortait le peuple, lorsqu'il leur disait de se souvenir de tout le chemin par lequel l'Éternel, leur Dieu, les avait fait marcher. Arrêtons-nous un moment sur ces paroles de l'apôtre en Philippiens 3. « Frères, je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Versets 13 et 14. Quelles sont les choses dont parle le bienheureux apôtre? Oubliait-il les soins de Dieu envers lui durant sa carrière terrestre? Non. Nous avons la preuve évidente du contraire. Il dit devant Agrippa, « Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands. » Acte 26, verset 22. De même, aussi en écrivant à Timothée, il passe en revue le passé et parle des persécutions et des souffrances qu'il a endurées, puis il ajoute « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » De Timothée 3, verset 11. Et encore « Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie, et que toutes les nations l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » De Timothée 4, versets 16 et 17. À quoi donc l'apôtre fait-il allusion quand il parle d'oublier les choses qui sont derrière? Il veut parler de toutes les choses qui n'apportaient rien à la gloire de Christ, des choses dont la chair pouvait se glorifier, sur lesquelles le cœur naturel pouvait se reposer, et qui ne pouvaient être que des obstacles à la course chrétienne. Ces choses-là devaient être oubliées, dans l'ardente poursuite des grandes et glorieuses réalités qui étaient devant lui. Ni Paul, ni aucun autre fidèle serviteur de Christ, n'a jamais eu le désir d'oublier les circonstances de sa carrière terrestre qui témoignaient de la bonté et de la fidélité de Dieu. Au contraire, c'est toujours une joie de nous rappeler ce que la main de notre Père nous a dispensé durant notre course ici-bas. Un regard rétrospectif sur les voies du Seigneur envers nous aura toujours pour effet de nous sortir de nous-mêmes et de nous remplir de reconnaissance et d'actions de grâce. Pourquoi Israël était-il exhorté à se souvenir de tout le chemin par lequel l'Éternel son Dieu l'avait fait passer? C'était assurément pour faire éclater son cœur en louanges pour le passé et fortifier sa confiance en Dieu pour l'avenir. Il doit toujours en être ainsi. Nous le louerons pour tout ce qui est passé, et nous nous confierons en lui pour tout ce qui est à venir. Puissions-nous le faire de plus en plus. Ces deux choses contribuent à la gloire de Dieu, ainsi qu'à notre paix et à notre joie en lui. Quand notre œil se repose sur les délivrances éprouvées tout le long de la route, notre cœur éclate de reconnaissance et de louange à celui qui nous a secourus jusqu'ici et qui veut nous secourir jusqu'au bout. Il a délivré, il délivre maintenant et il délivrera par la suite. Et ce que nous devons nous rappeler avec reconnaissance, ce ne sont pas seulement les délivrances dont nous avons été les objets de la part de notre Père, c'est aussi ce qui, dans son sage et fidèle amour, était destiné à nous humilier et à nous éprouver. De telles choses sont pleines de riches bénédictions pour nos âmes, et nous avons toutes les raisons de louer Dieu pour cela. Tu te souviendras de tout le chemin, de chaque étape du voyage, de chaque scène de la vie du désert, de tout ce que Dieu t'a dispensé du commencement à la fin. Et son but spécial était de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. Il est admirable de voir la grâce patiente et l'amour que Dieu a déployé envers son peuple dans le désert. Quelle précieuse instruction nous offre cette merveilleuse histoire. Nous avons aussi besoin d'être humiliés et éprouvés, afin de connaître ce qui est dans nos cœurs. Cela nous est de la plus grande utilité. Dans les premiers temps de notre vie chrétienne, nous connaissons peu ce qui est dans nos cœurs. Nous sommes facilement superficiels. Puis, en avançant dans la carrière pratique, nous saisissons mieux la réalité des choses. Nous découvrons la profondeur du mal qui est en nous, le vide et la vanité de tout ce qui est dans le monde. Et nous comprenons davantage la nécessité de dépendre entièrement et constamment de la grâce de Dieu. Tout cela est propre à nous rendre humbles et défiants à l'égard de nous-mêmes et à nous amener à nous appuyer, avec la simplicité d'un enfant, sur celui qui seul peut nous préserver de chute. En croissant ainsi dans la connaissance de nous-mêmes, nous comprenons mieux la grâce, mieux aussi l'amour merveilleux du cœur de Dieu, sa tendresse envers nous, sa patience pour supporter nos faiblesses et nos manquements, les soins touchants qu'il a pour nous, son intervention continuelle en notre faveur, et les diverses circonstances par lesquelles il a trouvé bon de nous faire passer pour le bien de nos âmes. L'effet pratique de tout cela est de donner de la profondeur, de la fermeté et de la douceur. On est rendu compatissant, patient et rempli d'égard pour les autres. On est gardé de porter des jugements trop sévères et on pèse avec indulgence les actions des autres. Ce sont là des fruits précieux des expériences du désert. L'homme vivra de toute parole de Dieu. Et il t'a humilié, et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 3. Ce passage a une importance toute spéciale par le fait que c'est l'une des citations de notre Seigneur dans sa lutte avec Satan dans le désert. Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Luc 4, verset 1 à 4. Scène merveilleuse. L'homme parfait était dans le désert, entouré de bêtes sauvages, jeûnant pendant 40 jours et tenté par le grand ennemi de Dieu et des hommes. Il n'en était pas pour le second Adam comme pour le premier. Il n'était pas entouré des délices d'Éden, mais de toute l'aridité, de toute la désolation d'un désert. Il y était seul, endurant la faim. Il a été là pour nous montrer de quelle manière il faut résister à l'ennemi dans toutes ses tentations. Ne nous imaginons pas que notre Sauveur rencontra l'adversaire en tant que Dieu souverain. Il était Dieu, cela est vrai. Mais s'il avait soutenu la lutte seulement comme telle, il n'y aurait pas eu d'exemple pour nous. Il aurait été bien inutile de nous dire que Dieu avait été capable de vaincre et de mettre en fuite une créature formée par sa propre main. Mais lorsque nous voyons celui qui était devenu homme, semblable à nous en toute chose à part le péché, souffrant la faiblesse et la faim, entouré des conséquences de la chute, et pourtant triomphant complètement de cet ennemi terrible, Il y a là un grand encouragement pour nous. Et comment en triompha-t-il ? En étant l'homme obéissant, n'ayant d'autre arme que la parole de Dieu dans son cœur et dans sa bouche. C'est par elle qu'il réduisit Satan au silence. C'est ainsi que le second Adam remporta la victoire sur le terrible ennemi de Dieu et de l'homme, et c'est ainsi qu'il est un exemple pour nous. Remarquons aussi que notre Seigneur ne raisonne pas avec Satan. Il ne se sert que de l'arme que nous avons tous en notre possession, la parole de Dieu, la parole écrite. Dans chacune des trois tentations, la réponse invariable de notre Seigneur est « Il est écrit ». Il en appelle simplement à l'Écriture, au livre du Deutéronome en particulier, à ce livre même dont les incrédules ont osé mettre en doute l'authenticité, mais qui est tout spécialement le livre de l'obéissance, au milieu de la ruine universelle et sans remède. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la seule position vraie, sûre et heureuse pour l'homme, celle où il écoute dans une humble dépendance tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'âme est placée en contact immédiat et personnel avec le Seigneur lui-même par le moyen de sa parole. Nous voyons ainsi que la parole est absolument nécessaire aux chrétiens. Nous ne pouvons nous en passer. Comme la vie naturelle est soutenue par le pain, de même la vie spirituelle est entretenue par la parole de Dieu. Se nourrir ainsi n'est pas recourir à la Bible pour y trouver des doctrines ou pour y voir nos opinions confirmées. C'est y chercher ce qui soutient la vie de l'homme nouveau, c'est-à-dire la nourriture, la lumière, les directions, la consolation, l'autorité, la force, tout ce dont l'âme peut avoir besoin. Observons en particulier la force de l'expression « toute parole ». Elle nous montre que nous ne pouvons nous passer d'une seule des paroles sorties de la bouche de Dieu. Il nous les faut toutes. Nous ne savons à quel moment surgira telle ou telle difficulté qui trouvera sa solution dans l'Écriture. Il se peut que nous n'ayons pas jusque-là remarqué particulièrement le passage qui s'adapte à notre difficulté, mais quand elle se présente, si notre âme est en bon état, l'Esprit de Dieu nous fournit, par la parole, le texte dont nous avons besoin, et nous y voyons une force, une beauté, une profondeur que nous n'y avions jamais vue auparavant. L'Écriture est un trésor divin, et par conséquent inépuisable, par lequel Dieu pourvoit abondamment à tous nos besoins. Il n'y a pas une étape dans l'histoire de l'Église, pas une difficulté sur la route d'un chrétien à laquelle il ne soit pourvu dans le Saint-Livre. Avec quel soin ne devrions-nous pas l'étudier dans son entier, le méditer, l'approfondir et le garder soigneusement dans nos cœurs? Nous serons ainsi parfaitement équipés et prêts à nous en servir quand l'occasion s'en présentera, qu'il s'agisse des tentations du diable, des convoitises du monde et de la chair, ou bien que nous ayons à suivre le sentier de bonnes œuvres que Dieu a préparé afin que nous y marchions. Remarquons surtout l'expression « de la bouche de Dieu ». Elle approche Dieu tout près de nous. Il parle pour que nous vivions par sa parole. Elle nous est donc absolument indispensable, et nos âmes ne peuvent pas davantage vivre sans elle que nos corps ne peuvent subsister sans nourriture. La vraie position de l'homme, son seul lieu de repos, de refuge et de force, se trouve dans une dépendance habituelle de la parole de Dieu. La vie de foi que nous sommes appelés à vivre est celle de la dépendance et de l'obéissance, c'est celle que Jésus a réalisée parfaitement ici-bas. Notre Sauveur ne faisait pas un pas, ne prononçait pas un mot sans l'autorité de la parole de Dieu. Évidemment, il aurait pu changer la pierre en pain, mais il n'avait pas de commandement de Dieu à cet égard, et, par conséquent, pas de motif pour agir. Les tentations de Satan étaient donc sans force sur lui. L'adversaire ne pouvait rien sur un homme qui ne voulait agir que d'après l'autorité de la parole de Dieu. La parole doit être pour nous comme le pain pour l'homme affamé, ou comme la boussole pour le navigateur. C'est d'elle qu'il nous faut nous nourrir. Et c'est d'après elle que nous devons agir, penser et parler. Plus il en sera ainsi, plus nous en connaîtrons la valeur infinie. Jamais elle ne fait défaut à qui s'en tient uniquement à elle. À quelque moment ou dans quelque occasion que nous la consultions, nous y trouvons ce dont nous avons besoin. Sommes-nous dans l'épreuve, dans le deuil? C'est elle qui nous consolera. Sommes-nous découragés et abattus? Elle viendra au-devant de nous avec ses belles et encourageantes assurances. Sommes-nous dans la pauvreté? Elle nous rappellera celui qui est le possesseur des cieux et de la terre, et qui, dans sa grâce infinie, s'est engagé à suppléer à tous nos besoins, selon ses richesses, en gloire. Philippiens 4, verset 19. Sommes-nous troublés par les opinions diverses des hommes, ou par des difficultés religieuses de toute espèce? Les Saintes Écritures répandront la lumière divine dans nos cœurs et nos consciences, répondront à nos questions, nous feront connaître les pensées de Dieu et mettront fin à toutes les divergences d'opinion. De quel prix est donc la Sainte Écriture? Quel trésor nous possédons dans la parole de Dieu? Combien nous devrions le bénir de nous l'avoir donné? Les soins de Dieu envers son peuple. Les versets qui suivent nous parlent de la sollicitude de l'Éternel pour son peuple durant toutes ses pérégrinations dans le désert. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Verset 4. Quelle grâce merveilleuse éclate dans ces paroles! L'Éternel prenant soin de son peuple pour que leurs vêtements ne s'usent pas ou que leurs pieds ne s'enflent pas. Non seulement il les nourrissait, mais il les vêtait et condescendait même à s'inquiéter de leurs pieds, de peur que le chemin ne les blesse. Et durant 40 années, il veilla ainsi sur eux avec toute la tendresse d'un père. De quoi l'amour n'est-il pas capable pour celui qui en est l'objet? L'amour de l'Éternel pour son peuple assurait à celui-ci toute bénédiction. Si seulement Israël l'avait compris. Depuis l'Égypte jusqu'en Canaan, il n'y avait rien à quoi Dieu n'ait pas répondu, quels qu'aient été les besoins des Israélites, et cela parce qu'il les avait pris sous sa protection. Ayant l'amour infini et la toute-puissance pour eux, que leur manquait-il? Mais l'amour de Dieu envers les siens se manifeste de diverses manières. Il ne pourvoit pas seulement aux besoins de leur corps, à la nourriture et aux vêtements, mais il s'occupe aussi de leurs besoins moraux et spirituels. C'est ce que le législateur rappelle au peuple en disant « Connais dans ton cœur que, comme un homme châtie son fils, l'Éternel ton Dieu te châtie. » Verset 5. Nous n'aimons pas la discipline. Sur le moment, elle n'est pas un sujet de joie, mais de tristesse. Un fils ne demande pas mieux que de recevoir la nourriture et le vêtement de la main de son père, mais il n'aime pas le voir prendre la verge. Et cependant, cette verge redoutée est peut-être ce qu'il y a de meilleur pour lui en produisant ce qu'aucun bienfait matériel ne peut faire. C'est elle qui le corrige d'une mauvaise habitude, le délivre d'une dangereuse tendance ou d'une fâcheuse influence. La verge devient ainsi une grande bénédiction morale et spirituelle pour laquelle il peut être à jamais reconnaissant. Le grand point, c'est que le fils reconnaisse l'amour et la sollicitude du père dans la discipline et le châtiment, aussi bien que dans les divers bienfaits matériels qu'il reçoit de lui. Nous manquons beaucoup à cet égard lorsqu'il s'agit des voies de notre père en discipline. Nous jouissons de ses bienfaits et de ses grâces. Nous sommes heureux de recevoir de lui jour après jour amplement et au-delà de ce qu'il faut à nos besoins. Nous aimons à penser aux nombreuses délivrances qu'il nous a accordées quand nous étions dans les difficultés, et nous lui sommes reconnaissants du secours qu'il nous a fourni tout le long de notre chemin. Tout cela est bien, mais nous courons le danger de nous reposer sur les bénédictions et les bienfaits dont il nous a comblés. Nous sommes portés à nous reposer sur ces choses et à dire avec le psalmiste « Et moi, j'ai dit dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne. » Psaume 30, versets 6 et 7. Même en reconnaissant que c'est par sa faveur, nous sommes portés à être occupés de notre montagne et de notre prospérité. Nous laissons ces choses se placer entre nos cœurs et le Seigneur, et ainsi elles deviennent des pièges pour nous. De là, la nécessité de la discipline. « Tu as caché ta face, et j'ai été épouvanté. » Verset 7. Notre Père veille sur nous dans son fidèle amour. Il voit le danger et il envoie l'épreuve, d'une manière ou d'une autre. Peut-être sera-ce la perte de nos biens terrestres, ou la maladie, ou la mort d'un bien-aimé. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons avoir à passer par de grandes eaux, qui semblent terribles à nos pauvres et faibles cœurs. Mais quelles que puissent être les insinuations de l'ennemi, soyons certains que tout ce que notre Père nous dispense Il le fait dans son amour et dans sa sagesse. Après nous avoir tirés des profondeurs de notre ruine, il daigne s'occuper de nous afin de nous rendre participants à sa sainteté et conformes à l'image de notre Sauveur. Faisons taire les murmures qui peuvent s'élever dans nos cœurs. Nous devons toujours justifier Dieu, toujours considérer sa discipline à la lumière de son amour. Connais donc dans ton cœur que, comme un homme châtie son fils, l'Éternel ton Dieu te châtie. Verset 5. Nous ne voudrions assurément pas être sans cette preuve de notre relation filiale. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis aux pères des esprits et nous vivrons? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi, redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Hébreux 12, versets 5 à 13. Moïse place devant la congrégation d'Israël les divers motifs qui devaient le porter à l'obéissance. Ces motifs étaient basés sur le passé, le présent et l'avenir, et ils avaient tous pour but de contribuer à réveiller et à fortifier leur sentiment des droits de l'Éternel sur eux. Ils avaient à se souvenir du passé, à considérer le présent et à anticiper l'avenir. Tout cela, en agissant sur leur cœur, devait les conduire à une vraie obéissance envers celui qui avait fait, qui faisait, et qui voulait faire de si grandes choses pour eux. Le lecteur ne manquera pas de remarquer que l'un des traits caractéristiques de ce livre du Deutéronome est de mettre en avant les principes moraux. Et garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Verset 6. Les Israélites devaient se rappeler l'histoire extraordinaire de ces 40 années de désert, les leçons, les humiliations, les épreuves qu'ils avaient rencontrées, puis les soins constants de l'Éternel, la manne venant du ciel, l'eau du rocher, sa sollicitude même pour leurs vêtements et pour leurs pieds, et enfin, la discipline nécessaire pour le bien de leurs âmes. Que de puissants motifs moraux pour obéir. Mais, en outre, ils devaient regarder en avant et trouver dans le brillant avenir qui les attendait, aussi bien que dans le passé et dans le présent, le sûr fondement des droits de l'Éternel à leur obéissance. Le pays de la promesse. Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde, qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel, un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, et où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Versets 7 à 9. Quel tableau magnifique de ce qui les attendait! Quel contraste avec l'Égypte qui était derrière eux et le désert qu'ils avaient traversé! La terre de l'Éternel était devant eux dans toute sa beauté, avec ses coteaux fertiles et ses eaux abondantes. Ce pays produisait et contenait tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. À la surface, une profusion de nourriture, dans les profondeurs de la terre, des richesses et des trésors inépuisables. Certainement, l'Israélite fidèle pouvait désirer entrer dans ce riche pays et échanger le désert contre ce bel héritage. Le désert, il est vrai, avait ses expériences bénies, ses leçons, ses souvenirs. C'est là qu'ils avaient connu l'Éternel sous un aspect que Canaan même ne pouvait leur présenter. Cependant, tout véritable Israélite devait soupirer après le moment de poser son pied dans le pays de la promesse, ce pays que Moïse dépeint d'une manière si captivante. « Un pays, dit-il, où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté et où tu ne manqueras de rien. Que pouvait-on dire de plus? La main de l'Éternel allait les introduire là où ils seraient divinement pourvus à tous leurs besoins. La faim et la soif y seraient inconnues. La santé, l'abondance, la joie, la paix, la bénédiction devaient être la part du peuple de Dieu dans ce bel héritage où il était sur le point d'entrer. Tout ennemi serait vaincu, tout obstacle enlevé. Le bon pays ouvrirait ses trésors pour le peuple, arrosé continuellement par les pluies du ciel et réchauffé par son soleil, il produirait avec abondance tout ce que le cœur pouvait souhaiter. Quel pays et quel héritage! Quelle patrie! Il va sans dire que nous le considérons maintenant comme il était dans la pensée de Dieu et comme il sera pour Israël durant le glorieux millénium qui l'attend. Nous n'aurions qu'une bien pauvre idée du pays de l'Éternel si nous y pensions seulement comme à celui qu'Israël a possédé autrefois, même dans les jours brillants de son histoire, au moment des splendeurs du règne de Salomon. Nous devons regarder en avant au temps du rétablissement de toutes choses, Acte 3, verset 21, pour avoir une idée juste de ce que sera le pays de Canaan pour Israël restauré. Or, Moïse parle du pays selon les pensées de Dieu. D'après sa belle description, il n'y aurait en Canaan ni ennemis, ni fâcheuses circonstances. On n'y verrait que fertilité et bénédiction. Voilà ce qu'il aurait dû être et voilà ce qu'il sera pour la postérité d'Abraham en vertu de l'alliance faite avec leur père, l'alliance nouvelle et éternelle basée sur la grâce souveraine de Dieu et ratifiée par le sang de la croix. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Dieu accomplira à la lettre tout ce qu'il a promis, malgré l'opposition de l'ennemi et la chute déplorable de son peuple. Quoique la postérité d'Abraham ait failli sous la loi et sous le gouvernement divin, le Dieu d'Abraham leur donnera cependant la grâce et la gloire, parce que ses dons et son appel sont sans repentir. Voir Romains 11, verset 29. Moïse comprenait parfaitement tout cela. Il savait ce qui en serait de ceux qui étaient devant lui et de leurs enfants après eux, durant bien des générations. Aussi regardait-il en avant, vers ce bel avenir où le Dieu de l'Alliance déploierait les triomphes de sa grâce aux yeux de toute la création. Toutefois, le serviteur de l'Éternel, fidèle au but qu'il avait devant lui dans tous les discours du commencement de notre livre, continue à exhorter les fils d'Israël et à leur montrer de quelle manière ils auraient à se comporter dans le bon pays où ils allaient entrer. Louange et reconnaissance. Et tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, à cause du bon pays qu'il t'a donné. Verset 10. Que c'est simple, que c'est beau. Rassasié des fruits de la bonté de l'Éternel, il devait le bénir et le louer. Dieu aime à être entouré de cœurs qui débordent du sentiment de sa bonté et qui éclatent en chants de louange et d'actions de grâce. Il dit « Celui qui sacrifie la louange me glorifie. » Psaume 50, verset 23. La plus faible louange, s'élevant d'un cœur reconnaissant, monte comme un parfum de bonne odeur jusqu'au trône et jusqu'au cœur de Dieu. Souvenons-nous-en, bien-aimés lecteurs. Pour nous, comme pour Israël, la louange est bienséante. Psaume 147, verset 1. Notre premier privilège est de louer notre Dieu, et nous devrions le faire continuellement. Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, verset 15. Rien ne réjouit le cœur et ne glorifie le nom de notre Dieu comme un esprit de louange chez son peuple. Il est bon d'exercer la bienfaisance et de faire part de nos biens. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. C'est un de nos grands privilèges de faire du bien, quand nous en avons l'occasion, à tous les hommes et particulièrement à ceux de la maison de la foi. Nous sommes appelés à être des canaux de miséricorde entre le cœur de notre Père et toutes les formes de la misère humaine que nous rencontrons journellement sur notre route. Tout cela est vrai, mais n'oublions pas que la place la plus élevée appartient à la louange. C'est elle qui occupera nos facultés renouvelées durant les âges glorieux de l'éternité, alors que l'exercice de la bienfaisance ne sera plus nécessaire. Prospérité et oubli de Dieu. Cependant, le fidèle législateur ne connaissait que trop bien la tendance du cœur humain à oublier, à perdre de vue le divin donateur et à se reposer sur ses dons. C'est pourquoi il adresse à l'assemblée l'avertissement qui suit. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui. De peur que, quand tu mangeras et que tu seras rassasié, et que tu bâtiras de bonnes maisons et y habiteras, et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, et que l'argent et l'or te seront multipliés, et que tout ce qui est à toi se multipliera, alors ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible, désert de serpents brûlants et de scorpions, une terre aride où il n'y a point d'eau, qui a fait sortir pour toi de l'eau du roc dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier et afin de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin, et que tu ne dises dans ton cœur « Ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses ». Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de ratifier son alliance, qu'il a juré à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Et s'il arrive que tu oublies en aucune manière l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et que tu les serves et que tu t'inclines devant eux, je rends témoignage aujourd'hui contre vous que vous périrez entièrement. Comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, ainsi vous périrez, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Versets 11 à 20. Tout cela s'adresse à nous, comme jadis à Israël. Nous nous étonnons peut-être de la fréquente répétition des avertissements et des exhortations, mais ne sentons-nous pas profondément que nous en avons nous-mêmes un besoin urgent? Les grands faits que Moïse rappelle continuellement au peuple avaient toujours leur valeur morale et leur puissance. Israël pouvait les oublier ou négliger de les apprécier, mais les faits restaient les mêmes. De tels faits auraient dû avoir de l'influence sur les cœurs, pour autant qu'il s'y trouve un peu d'amour sincère pour Dieu. C'est pourquoi Moïse les rappelle si souvent et s'en sert comme d'un puissant levier pour agir sur leur cœur. Il sentait pour lui-même la puissance morale de ces choses, et il désirait que d'autres la sentent aussi. Pour lui, elles étaient précieuses au-delà de toute expression, et il s'efforçait de les rendre telles à ses frères. Son but unique et constant était de placer devant eux, de toute manière, les droits qu'avait l'Éternel à leur obéissance entière et joyeuse. Cela explique la fréquente répétition des scènes du passé dans ses discours de Moïse. En les lisant, nous nous souvenons des paroles de Pierre dans sa seconde épître. « C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire. » Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Chapitre 1, versets 12 à 15. Qu'il est remarquable de voir l'unité d'esprit et de but chez ces deux serviteurs de Dieu. L'un et l'autre connaissaient la disposition du pauvre cœur humain à oublier ce qui concerne Dieu, le ciel et l'éternité, et ils sentaient l'importance suprême et la valeur infinie de ce dont ils parlaient. Est-ce qu'un Israélite pieux aurait jamais pu se lasser d'entendre raconter ce que l'Éternel avait fait pour lui en Égypte, à la mer Rouge et dans le désert? Jamais. De tels sujets étaient toujours nouveaux et précieux pour son cœur. Le chrétien, de même, pourrait-il jamais se lasser de la croix et de toutes les glorieuses réalités qui se groupent autour d'elle? Pourrait-il jamais se lasser de Christ, de sa personne et de son œuvre? Jamais.